un service conseil reconnu depuis 1972 et des milliers de livres testés sur des libraires.
Le temps teste tes vertus.
Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu?
En direct de la Cité Voltaire, oui, c'est le coin, le nom qu'on donne au coin où on est, dans les bureaux. Oui, on ne rêve pas, on y pensait depuis longtemps le faire, mais c'est fait. Nous diffusons l'émission Grain de sable d'Attaque Québec à partir du siège social d'Attaque France, sous près de la rue Voltaire, ceux qui connaissent Paris. C'est vraiment une belle occasion. Les gens sont en train de fêter dans une salle attenante cette grande manifestation qui a réuni quasiment 20 000 personnes en face de la Tour Eiffel. Bien sûr, c'est une victoire d'avoir pu manifester aujourd'hui, mais il n'y avait pas juste une manifestation, il y avait trois manifestations. Tout a commencé le matin entre 9h30 et 11h30. Les Éliminataires internationales avaient mobilisé des milliers de personnes. D'ailleurs, il y a plus de 3 000 personnes hier dans une salle provenant de 75 pays. Les Éliminataires ont planifié une activité qui était, en fait, pour compenser le fait qu'il n'y avait pas de manifestation possible il y a 2 semaines. Donc, en 2 semaines, ils ont réussi à trouver une activité très originale de géolocalisation. D'ailleurs, on devrait faire ça au Québec. On a trouvé des points qui faisaient en sorte que lorsque les gens se rendaient sur place et poinçonnaient sur une application, on pouvait voir leur présence à partir des satellites. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit, ces gens-là, qui ont pointé leur présence? Et moi, dans le cas, l'équipe à qui j'étais, on a pointé 3 endroits. Et ces 3 endroits-là, c'était le M de Climate. Oui, on a voulu représenter Climate Justice. On se répète, non, mais c'était pas Peace. C'était l'activité des Amis de la Terre ce matin. Donc, vous pouvez aller sur Internet, faites hashtag COP21, hashtag Climate Justice Peace, et vous verrez des lumières allumées, et ça, c'est des milliers de personnes qui ont fait ça. Il faut faire ça au Québec un jour. Par la suite, on est allé marcher, et ça, c'est une victoire de pouvoir marcher dans Paris, entouré de CRS. On s'est fait fouiller sur les Champs-Élysées, métro Argentine. Les CRS nous accueillaient, donc ça nous sécurisait quand même. Il y a eu 15 000 personnes attendues qui étaient présentes pour manifester avec des slogans que vous connaissez, que vous apprendrez à connaître, puisque c'était au moment où on était dans les dernières tractations pour faire connaître le deal. Et le dernier événement, après cette marche, était de se retrouver au Champ de Mars à entendre des discours. Et dont Noémie Klein, cette Canadienne qui est une superstar, difficile d'approche, moi, ça m'a pris 2 tentatives avant de pouvoir rester à un de ses ateliers. Et là, j'ai pu l'entendre, aller lui parler, lui toucher avec son enfant et son mari qui était là à la fin. Et elle promet de venir à Québec nous voir. Donc, oui, Naomi Klein, je retiendrai ces paroles. Vous savez, je pourrais vous donner mon impression, ma description de cette entente qui vient d'être signée, mais je vais plutôt prendre les mots de Naomi Klein, qui, devant 15 000 personnes, qui faisait des chaînes, qui faisait des manifestations. On a même vu brûler l'entente de COP21 au bout de banderoles. L'entente nous mène au désastre. Leurs engagements ne permettront pas de diminuer de 2 degrés Celsius. Tout du langage que vous allez très connaître. On ne doit pas les laisser brûler notre planète. Les vrais leaders sont dans la rue maintenant. De très beaux discours, une belle photo. Oui, beaucoup de monde sont venus. Il y a eu 196 chefs d'État qui sont venus. 196 que je retiendrai à Montreuil, au village mondial des alternatives, où Claude Vaillancourt d'Attaque Québec occupait un siège. Et moi aussi, siège de la BNP. Donc, on parlera avec quelqu'un qui nous racontera comment on a pu faire cette organisation de faucheurs de chaises. Mais d'abord, j'aimerais donner la parole à Claude Vaillancourt. Et après, on aura des porte-paroles d'Attaque France pour nous donner vraiment leur opinion. Donc, et Attaque Autriche même, vous voyez, c'est intéressant. D'ailleurs, Attaque France n'est pas juste en France et au Québec, mais dans une 20aine de pays. Alors, on aura la chance d'entendre des choses. Donc, Claude Aliancourt, parlez-nous de cette expérience de la société civile qui ne faisait pas partie de la délégation gouvernementale. Vous avez payé vos frais. Nos félicitations. Vous n'avez pas eu à manger, à dormir avec le gouvernement pendant que vous étiez ici.
Oui, en fait, il y avait deux COP21. Il y avait la COP officielle qui se déroulait au Bourget et il y avait le salon officiel aussi qui s'appelait Génération Climat qui était aussi au Bourget et il y avait aussi le contre-sommet qui, lui, avait lieu principalement à Paris. Pendant le week-end, c'était à Montreuil et ensuite, pendant toute la semaine, c'était dans un endroit qui s'appelait la Zone d'action climat. Et c'est intéressant de voir que dans ces deux lieux, ben, il y avait une vision complètement différente. Au Bourget, par exemple, on croyait beaucoup aux solutions de marché. On croyait beaucoup à des inventions scientifiques comme la captation du carbone. J'ai entendu personnellement une intervention de Jeffrey Sachs, qui est un économiste quand même très connu, qui disait que dans le fond, pour assurer l'avenir, pour protéger le climat, ben, il fallait plus ou moins avoir recours avec cette invention scientifique extrêmement douteuse qui s'appelle la captation de carbone. On croit aussi beaucoup au marché du carbone. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a fait plusieurs interventions là-dessus, une campagne là-dessus, alors que finalement, dans le contre-sommet, on dit c'est pas ça la question. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer le système. C'est-à-dire que si on continue à mener les mêmes politiques, si on continue à mener cette espèce de collaboration totale entre les multinationales, le marché, l'entreprise, ben, on n'arrivera jamais finalement à un changement. Donc, le contre-sommet était non seulement un lieu différent, mais aussi véhiculait une vision du monde, une vision des changements à venir, non seulement plus radical, mais je dirais peut-être aussi plus pragmatique, parce que c'est très difficile, finalement, d'envisager les changements dont on a absolument besoin tout en poursuivant le même système économique. Il faut faire des changements majeurs. Il faut limiter les pouvoirs des multinationales. Il faut, bien sûr, mettre fin au lobbying intensif qui était quand même assez flagrant lors de ce dernier sommet. On avait l'impression que les lobbyistes étaient à peu près partout et qu'ils sont intervenus directement dans la formulation du texte final de l'accord et évidemment pour pas pour le mieux, pour le pire. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu observer pendant cette semaine.
Merci Claude Aliancourt. Donc nous avons avec nous Dominique Plion, qui est du Conseil d'administration d'Attaque France. J'aimerais que vous nous rappeliez quand même l'importance d'Attaque France parmi les autres attaques à travers le monde. Bien sûr, on a entendu parler les premières fois d'Attaque France et de vos combats pour la taxe Tobin, qu'on appelle de plus en plus la taxe globale ou une taxe sur les transactions financières, qui fait même partie de l'explication de l'acronyme ATTAC. Et quelles sont donc vos grandes actions citoyennes?
Bonsoir, oui, nos actions citoyennes. Bonjour, plutôt, devrais-je dire, parce que nous sommes à la mi-journée au Canada, nous sommes le soir en France en ce moment. Mais oui, ATTAC France a été le premier ATTAC qui a été créé en 1998. Mais très vite, il y a eu d'autres attaques dans le monde et en Europe notamment. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'attaque le plus nombreux et peut-être aussi le plus puissant, si on peut dire, en termes de nombre d'adhérents, etc., c'est l'attaque Allemagne, et avec lequel, d'ailleurs, nous travaillons beaucoup. Mais il y a d'autres attaques. Tout à l'heure, Alexandra pourra en parler, attaque Autriche, par exemple. Donc, nous travaillons beaucoup avec les attaques d'Europe. Hein. Il y a 28 pays dans l'Union européenne. Il y a une vingtaine d'attaques dans en Europe. Mais aussi des attaques, par exemple, en Amérique latine, puisque nous avons organisé avec ATTAC Brésil, par exemple, les premiers forums sociaux mondiaux à Porto Alegre. Et donc, voilà, nous sommes intermondialistes, donc nous sommes internationalistes, et donc tout de suite, nous avons cherché à trouver des alliances avec d'autres mouvements sociaux dans d'autres pays pour défendre une autre vision de la mondialisation. Et l'instrument que nous avions porté en avant au départ, c'est la taxe sur les transactions financières, à l'époque taxe Tobin, qui est toujours à l'ordre du jour, d'ailleurs, parce que pendant le sommet de la COP21, eh bien, il a été annoncé une décision de principe d'appliquer une taxe sur les transactions financières en Europe. Malheureusement, nous sommes extrêmement déçus et critiques, parce que cette taxe, ce projet est très vague, avec beaucoup d'exemptions, mais c'est quand même une avancée, parce que maintenant, l'idée que nous défendons depuis nos origines, depuis le début d'attaque en 1998, c'est qu'il faut une taxe sur les transactions financières. non seulement pour ramener des fonds, pour financer par exemple le climat, mais aussi pour lutter contre la spéculation financière. Et cette idée maintenant, je crois qu'elle est admise, cette bagarre que nous avons menée a porté ses fruits. Mais aujourd'hui, les attaques d'Europe, les attaques du monde, se battent sur bien d'autres sujets. J'en citerai deux, que la taxe sur les transactions financières. Bien sûr, la question du climat, c'est devenu pour nous une lutte emblématique, parce qu'on voit bien que si on ne change pas de politique, si on ne change pas de système productif, de mode de consommation, d'habitat et de transport, la planète est condamnée et les générations futures seront en grande difficulté. Donc il y a une question de solidarité, non seulement entre les peuples aujourd'hui, mais avec les générations futures. Et puis l'autre domaine dans lequel nous luttons beaucoup, Québec le sait très bien, c'est la question du libre-échange. C'est-à-dire, nous avons en ce moment des accords de libre-échange en gestation, dont un qui est déjà signé entre le Québec, le Canada et l'Europe. Et nous faisons tout pour qu'il ne soit pas ratifié par le Parlement, mais ça va être très dur, mais nous nous battons jusqu'au bout. Et puis, il y a un deuxième accord en négociation, qui est l'accord entre l'Europe et les États-Unis. Et là aussi, nous nous battons et nous avons une plateforme, c'est-à-dire un collectif d'organisations européennes qui travaillent ensemble et nous marquons des points. Par exemple, nous avons fait une consultation auprès des pays européens, des citoyens européens, qui a recueilli plus de 3 millions de votes et de suffrages, qui a montré très clairement que la majorité des citoyens européens étaient opposés à ce traité, et en particulier aux tribunaux d'arbitrage privés, très dangereux, qui consiste à mettre finalement les multinationales sur le même plan que les États souverains et qui pourrait empêcher à l'avenir les électeurs de voter pour un nouveau programme politique, parce que celui-ci serait tout de suite attaqué par les multinationales qui verraient leurs intérêts lésés. Et donc, si vous voulez, nous nous battons aussi sur ce sujet-là, et nous avons en commun donc avec Attaque Québec, de ce point de vue-là, une lutte que nous cherchons à mener. Voilà, donc Attaque, c'est beaucoup plus qu'un mouvement social européen, c'est un mouvement international, et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir le soutien et la participation d'Attaque venues d'autres continents pour cette COP21. Et les deux belles manifestations que nous avons organisées aujourd'hui, ce matin les lignes rouges et cet après-midi la chaîne humaine sur la place du Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, sont une réussite, mais en grande partie une réussite grâce à la participation internationale.
Merci beaucoup, Dominique Pilon. Vraiment, ça nous donne un aperçu de tous vos combats actuels. Mais en Autriche, Alexandra Strickner, porte-parole d'Attaque Autriche, est-ce que la COP21 représente une étape importante pour justement ce grand groupe qu'est Attaque à travers le monde? Qu'est-ce que vous ramenez, qu'est-ce que vous allez ramener aux Autrichiens?
Oui, aussi une bonne après-midi de la part de moi. Tout d'abord, je voudrais féliciter à notre ami d'Attaque France et aussi tous les autres mouvements qui ont organisé vraiment deux semaines ici à Paris et aujourd'hui en particulier les mobilisations. C'était vraiment un moment très important et surtout le fait que on est sorti dans la rue aujourd'hui, bien que il y a deux semaines, après les attentats, les autorités essayaient de ne pas donner l'autorisation pour rien. C'est une grande victoire, je dirais, pour le mouvement qu'on est sorti dans les rues et qu'on a bien mis notre message. Pour nous, la COP21 en Autriche a une grande importance dans le sens que on est réussi à construire avant la COP21 pour la mobilisation du 29 de décembre, aussi pour la première fois une mobilisation plus importante sur le thème System Change, not Climate Change, changeant le système et pas le climat. Et c'est tout à fait une nouvelle développement parce que en Autriche, auparavant, le thème de climat, c'était plutôt un thème qui était surtout discuté et par les grandes organisations de l'environnement. On a réussi à faire là des mobilisations en trois grandes villes en Autriche, Vienne, la capitale, mais aussi deux autres villes. Et donc, c'était assez important parce que surtout, ces mobilisations, c'était fait justement par attaque, par une série d'autres mouvements, et aussi par beaucoup des jeunes qui sont en train de se politiser et de se mobiliser autour de ce thème. Les grandes organisations de l'environnement n'étaient pas présentes. Et donc pour nous, c'était vraiment une joie de voir qu'il y a une conscience qui est déjà présente. Et il y a déjà une date en Autriche après l'accord Saint-Tien que nous on se donnait au début du mois de mars pour continuer à discuter quels vont être nos prochains pas, parce que pour nous c'était très clair, Paris, la COP 21, c'est seulement un moment, c'est le début d'avancer vers cette lutte et vers cette travail, vers le changement du système que nous voulons. Et donc pour nous, le message et aussi le résultat montre ce qu'on a devant nous, c'est de multiplier les résistances contre le TAFTA, contre le CETA, contre tout type de traité de libre-échange, contre tout type de construction qui sont des constructions qui soutiennent encore cet modèle fossile, et en même temps de multiplier nos alternatives, de aussi utiliser toute cette grande mobilisation qu'on a organisée avec les communautés hors TAFTA, et mener et porter le débat sur les alternatives dans ces communes, pour avancer avec les alternatives et la construction du monde que nous voulons.
Alexandra Strickner, c'est très clair. Merci beaucoup. Donc, les combats se continuent. Merci aussi à Dominique Plion. Donc, Claude Vaillancourt, c'est des choses que vous connaissez, mais qu'allez-vous rapporter au Québec comme nouveau combat pour Attaque Québec? Oh là là, j'aimerais juste mentionner que Attaque Autriche est particulièrement bien organisée. Ils ont énormément de groupes locaux. Vous en avez combien, Alexandra?
Une trentaine.
Une trentaine. C'est quand même beaucoup pour un pays dont la population est à peu près équivalente à celle du Québec. Donc, c'est ça. Alors, bon, qu'est-ce que je vais rapporter? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment... il faut vraiment voir l'échéance du Forum social québécois qui va avoir lieu en août prochain. Donc, on a beaucoup travaillé pour convaincre les gens ici que ce rendez-vous est un rendez-vous important pour la lutte, justement, pour le changement climatique. Au Québec, il y a un enjeu extrêmement important. C'est l'oléoduc Trans-Canada qui est en train d'être construit. Si cet oléoduc est construit, bien, ça va permettre l'exportation du sable bitumineux en Europe, justement. Donc là, il y a un lien entre le Québec et l'Europe qui est extrêmement important à faire. Et ce pétrole et sable bitumineux, il faut le rappeler, c'est du plus polluant. Hein. Il n'est pas du plus polluant. À la fois un gaspillage énorme d'énergie, un baril de pétrole pour en produire deux, et du gaspillage d'eau en quantité incroyable. Je pense que ce pétrole-là, il faut le laisser sous terre, tout simplement. On n'a pas d'autre choix que ça. L'issue vers le Pacifique est bloquée actuellement. L'issue vers les États-Unis est bloquée. Donc, tout ce qui reste, c'est l'issue vers l'Europe par le passage du Québec. Donc, c'est clair que ça pourrait devenir un enjeu absolument essentiel. Alors, c'est une espèce de lutte symbolique, finalement. C'est un enjeu québécois, mais international à la fois. Est-ce qu'on veut de ce pétrole ultra polluant? Ce qui est intéressant, là où je t'ai parlé, genre, du discours de Naomi Klein, Naomi Klein dit que dans le texte final de l'accord, le terme énergie fossile est absent. Alors, quand on pense que c'est l'enjeu le plus important, que ça soit absent, ça montre à quel point cet accord-là est profondément insatisfaisant. Alors, je pense que tout ça qu'il faut ramener au Québec, c'est de dire que finalement, la bataille est loin d'être finie. Au contraire, je pense qu'elle doit retrouver une énergie nouvelle, parce que ceux qui se disaient que peut-être qu'à travers cette COP, on aurait un texte qui nous permettrait d'avoir des avancées intéressantes, ben non, ça s'est pas produit ici. Donc, j'ai l'impression qu'il faut, au contraire, mettre l'accent, se mobiliser davantage, être de plus en plus actif et travailler à la fois à une échelle locale et à une échelle plus globale.
Merci. Très bon résumé, Claude Vaillancourt. Effectivement, Naomi Klein, cette collaboratrice du Harper's, reporter pour Rolling Stone, chroniqueuse affiliée au New York Times, au Guardian, à The Nation, Naomi Klein, une journaliste canadienne saluée par de nombreuses distinctions, qui est auteur de nos logos, pour ceux qui s'intéressent à la lecture, La tyrannie des marques, et de la stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du DAS, et évidemment, son dernier opus, Tout peut changer, capitalisme et changement climatique. Donc, d'avoir Noémie Klein pour nous parler de la Blocadia. Est-ce qu'on fera la Blocadia chez nous après cette pause musicale avec HK et les Saltimbanques qu'on a découvert ici au village global des alternatives, Alternativa? Et je vous promets, je vais tout faire. Je vais appeler mes amis du festival d'été. Là, vous savez que c'est correct, elle est proche des gens du festival d'été. Il faut avoir HK et les Saltimbanques au festival d'été. Je suis la même scène que Paul McCartney, que Céline Dion, que Pink Floyd, que qui d'autre, on les nomme plus, Madonna. Il faut avoir ces chanteurs engagés qui nous chantent. Vraiment, je le dis avec frisson, quand on voit la vidéo, je vous suggère d'aller voir la vidéo, la première image, c'est Henri-David Thoreau, mon idole, celui qui a inventé la désobéissance civile. Alors, HK et les Saltimbanques, sans haine, sans armes et sans violence. Allez-y, Michel, de retour après avec un faux char de chaises, mais on vole des chaises à des banquiers.
C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face. Nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation. Que nous leur portions cette marchandise, objet de toutes leurs convoitises, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence.
Sans rêve, sans âme, sans violence. Sans rêve, sans âme, sans violence.
Prédicateur de la sainte finance, toxicomanes accros à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent, la plèbe blasphématrice. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre, vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables? Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence. Sans haine, sans armes, sans violence.
Merci HK et les Saltimbanques de nous mettre des mots de désobéissance civile sans haine, sans armes et sans violence. Un bel exemple de désobéissance civile qu'on a vécu ici. Moi, j'en avais entendu parler par reporter.net avec qui on a des ententes de diffusion. Peut-être avez-vous entendu une minute où on parlait de ces voleurs de chaises, surtout celles de la BNP, ceux qui connaissent, la Société Générale et la SHBC. Vous savez, c'est les banques. Moi, j'ai fait un premier geste. Tout à l'heure, je devais aller prendre une bière avec les Amis de la Terre et tout près de Champ de Mars. Il y avait un kiosque, un guichet de la SHBC. J'ai dit non, je prends pas cette banque-là parce que ils donnent de l'argent, ils cachent de l'argent dans les paradis fiscaux. Ils font des choses pas très catholiques, comme on dirait chez nous. J'ai vu un deuxième guichet de la BNP. J'ai dit non, j'ai pas le droit. C'est les pires, eux, je pense, ici en France. Et là, j'ai vu un autre guichet de la Société Générale. Finalement, c'est pas beaucoup mieux. Expliquez-nous, Dominique Plion, quelle était cette activité de faucheur de chaises sur laquelle Claude Léancourt de Québec s'est assis. Et moi, sur une chaise à BNP, j'en suis bien fier avec mon cigare et ma cravate au village global Alternativa samedi dernier. Qu'est-ce que c'est que cette affaire qu'on pourrait peut-être faire au Québec? Alors, les banques sont en France, mais au Québec aussi, certainement. Les acteurs qui organisent le plus, le mieux, l'évasion fiscale. Cette évasion fiscale qui se traduit par les déficits publics, c'est-à-dire le fait que les États ont moins de ressources publiques. En France, par exemple, on a calculé qu'il y avait de l'ordre de 50 à 60 milliards d'euros qui manquaient chaque année dans les caisses de l'État, c'est-à-dire la moitié du déficit public à cause de l'évasion fiscale. Et donc, nous avons décidé d'attaquer, nous attaquer aux banques qui organisent cette évasion fiscale. Et comment le faire ? Nous avons décidé de faire une action qui soit une action à la fois symbolique et une action de désobéissance civile. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous sommes allés dans les banques, dans les agences des banques, HSBC au Pays Basque d'abord, et puis BNP Paribas en région parisienne mais et dans les régions en France, et puis notre banque Société Générale, et nous avons pris des chaises. Vous savez, des chaises sur lesquelles les clients s'assoient quand ils vont discuter avec leurs conseillers dans les banques. Et nous avons pris au total 240 chaises dans les banques. Mais notre objectif était de n'avoir en fait que 196 chaises qui correspondaient aux 196 pays qui participaient, qui ont participé à la COP21. Et notre idée, c'était à partir de ces 196 chaises, de faire ce que nous avons fait le week-end dernier à Montreuil, c'est-à-dire un sommet des 196 pays, 196 chaises, auxquelles Claude Vaillancourt a participé, par exemple, et un sommet international, et pour porter à la connaissance du public, finalement, des citoyens, eh bien, le fait que ces banques sont les principaux organisateurs de l'évasion fiscale, qui est un des fléaux de notre société, une cause d'injustice et de scandale permanent. Et cette action de désobéissance civile, pour nous, est tout à fait importante, parce que nous avons décidé que dans l'état de nos sociétés aujourd'hui, pour résister et pour obliger ceux qui décident, les gouvernements, les lobbies, etc., à reculer face à des demandes qui sont légitimes, comme par exemple stopper l'évasion fiscale, eh bien de faire de la désobéissance civile. C'est-à-dire de faire des actions qui ne sont pas nécessairement conformes à la loi, qui peuvent même être jugées illégales. Nous avons d'ailleurs été, eu des plaintes en justice pour nos actions, mais nous les considérons comme légitimes. C'est-à-dire nous considérons qu'il est anormal que les États laissent faire l'évasion fiscale en n'attaquant pas, en ne condamnant pas les banques qui l'organisent. Et voilà. Et donc, ça nous permet maintenant d'avoir une action qui a beaucoup de succès, qui est dans l'opinion publique. Les médias la reprennent. Même les médias qui, au départ, nous regardaient avec un certain regard critique, reconnaissent que cette action a un certain sens. Et c'est un moyen pour nous de faire reculer les banques. Par exemple, pour BNP Paribas, notre objectif, c'est d'obtenir que BNP Paribas abandonne les 7 filiales qui sont en fait qu'elle détient dans les paradis fiscaux aux îles Caïmans et ou qu'elle utilise pour organiser l'évasion fiscale. Et tant que la BNP Paribas n'aura pas fermé ses filiales aux îles Caïmans, eh bien nous continuerons notre action. Donc je pense que c'est un type d'action comme ça que nous devrions mener en Europe, au Québec et bien dans d'autres régions du monde pour faire de la désobéissance civile et obtenir des changements dans la société, obtenir que des décisions des pouvoirs politiques, par exemple, ou des acteurs dominants comme sont les banques, qui nous paraissent illégitimes, eh bien, soient remises en cause.
Merci Dominique Pillon. Est-ce qu'Alexandra Streckner, vous faites ce genre d'action en Autriche?
Non, en fait, ce type d'action, on n'a pas encore en fait fait. Mais elle nous a donné beaucoup d'inspiration et je suis tout à fait d'accord avec Dominique Pillon que ce type d'action, c'est certainement quelque chose qu'on doit faire de plus dans le futur. On doit les multiplier tant que aussi les campagnes de divestment, de désinvestissement qui sont en train d'être menées et poussées en avant.
Et est-ce que nous, on fera ça, Claude Vaillancourt, au Québec, avant d'aller à la pause?
Ben, ce qui est intéressant, c'est que lors de l'événement de samedi dernier, il y avait des gens des 5 continents assis sur les chaises. Et le message qui vous est envoyé, c'est « faites-le chez vous hein? ». Alors donc, c'est très clair que l'invitation est là. Au Québec, on sait qu'il y a quand même eu un grand mouvement contre les paradis fiscaux dernièrement. Il y a eu beaucoup d'occupations de banques. Mais ce qui est intéressant par rapport aux occupations de banques qu'on a fait, c'est que là, on reste avec un objet qui devient un symbole, le symbole de l'évasion fiscale, le symbole de toute l'action des banques. Alors, je pense que oui, il faudrait former un mouvement réquisitionner des chaises des banques aussi.
Après la pause de Skatac France participera au Forum social mondial. On va poser la question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première demi-heure, ce premier bloc. On continue tout à fait après, toujours en direct. Du siège social d'Attaque France en compagnie de ses leaders qui nous montrent la voie de demain, comment financer la transition sociale et écologique. Vous savez, notre planète est en train de brûler et nos gouvernements ont regardé ailleurs.
Vous écoutez CKRL 89.1.
Merci toujours ici au siège social d'Attaque France. Et c'est vraiment assez unique d'être en présence de ces gens qui ont beaucoup travaillé depuis les derniers mois, organisé plein d'activités. Pour eux, c'est comme le party de la fin, c'est comme le party de départ. Chacun va retourner dans leur région, dans leur pays. Mais on a un jeune ici avec nous qui va venir peut-être la première fois au Québec et nous le dira. Il va venir voir ce que l'on peut faire avec les gens du Québec. Et vous savez, il y a un grand forum social mondial qui se déroule à Montréal prochainement. Et Arthur, tu me permets de t'appeler Arthur, explique-nous comment t'en es arrivé à avoir la possibilité de venir chez nous et à t'impliquer éventuellement dans le forum social qui se déroulera à Montréal?
Oui, bonjour, Montréal. Du coup, moi, c'est Arthur. Je suis à la base, je suis juste étudiant en sciences politiques. Je suis très jeune, j'ai 22 ans. Et là, je suis en stage à TAC France. Là, mon stage finit très bientôt en janvier. Ça m'a énormément plu. J'ai vraiment eu un grand plaisir à participer à ce mouvement intermondialiste. Et du coup, là, l'idée, en fait, pour continuer un petit peu mon année de césure qui se finira en septembre, c'est de se rendre à Montréal, à partir de mars, donc pour une double raison. Donc déjà, peut-être pour rapprocher Attaque France de Attaque Québec, avec qui on est déjà proche, mais peut-être établir des liens encore plus étroits, peut-être avoir des campagnes communes et bien sûr, peut-être établir des relations avec d'autres mouvements au Québec, peut-être les Amis de la Terre et plein d'autres choses. Et du coup, l'idée, ce serait donc de rapprocher Attaque France avec les mouvements sociaux au Québec, et également que je participe à l'organisation du Forum social mondial, qui est quand même le plus grand mouvement, enfin le plus grand événement altermondialiste. Et là, on est quand même après cette COP 21, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire là-dessus au Forum social mondial. Peut-être créer des campagnes communes au niveau mondial, mais en dehors d'avoir des convergences au niveau des idées, au niveau de la théorie, ce qui serait intéressant selon moi, ce serait vraiment d'avoir des campagnes de désobéissance civile commune. Donc, on a parlé tout à l'heure de la campagne des faucheurs de chaises. Ce serait vraiment formidable si au Québec, il y avait les mouvements sociaux reprenaient cette campagne. Et l'idée, ce serait vraiment de créer des campagnes comme ça au niveau mondial et que chaque pays lance ses campagnes de désobéissance civile et qu'il y ait une participation des différents pays à ces campagnes.
Claude Béancourt, on parle beaucoup du Forum social mondial. Vous êtes un familier de ce genre de forum. Qu'est-ce qui pourrait effectivement être fait par Attaque France pour montrer sa présence chez nous au mois d'août prochain, je crois? Les dates ont évolué, c'est aux environs du 9 août pour quelques jours à Montréal. Quel genre d'activité on peut s'attendre là-bas? Est-ce que c'est possible de faucher les chaises pendant ce temps-là ou de partir en vélo comme les gens ont fait des Pays Basques, partir en vélo et se rendre jusqu'à Paris pendant plusieurs mois avec leur vélo? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre d'action et d'être inspiré par ce qui s'est passé ici à COP21?
Ben, ce qu'on veut faire, surtout dans le forum social, c'est de concevoir des ateliers, pas seulement avec Attaque France, mais avec GlobeAttack. GlobeAttack, c'est l'ensemble des attaques dans le monde. Donc, sur les sujets qui nous concernent, je pense que c'est vraiment sur ça qu'on va travailler. Alors, voilà.
Ben, merci beaucoup. Donc, il y a des possibilités de voir des gens d'Attaque France et de voir quelles sont ces choses. Claude Béancourt, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut retenir de votre présence ici? Depuis votre arrivée, vous avez participé à beaucoup d'activités de la société civile. Quel est le message que vous voulez laisser aux auditeurs de ceux qui auraient voulu venir ici à Paris et qui n'ont pas pu venir? Est-ce que vous êtes satisfait, par exemple, de ne pas avoir eu d'accréditation à Le Bourget, où se passaient toutes les tractations pour cette entente? Est-ce que ça valait vraiment la peine de venir pour être au courant du final de ces ententes ou on connaissait le résultat de toute façon à l'avance?
Alors, malheureusement, le résultat était prévisible. Puis j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est s'organiser, là. C'est d'organiser une résistance qui est vraiment beaucoup plus forte, plus significative. C'est très difficile de se coordonner à l'échelle internationale parce qu'on a des intérêts différents, on est des groupes différents. On a des cultures différentes. Alors, c'est un défi constant. C'est pour ça qu'il faut peut-être multiplier les occasions qu'on a de s'unir. À partir de cette COP 21, je pense que ce qui est assez particulier, c'est que les gouvernements avaient mis beaucoup d'espoir. Il nous avait promis une entente significative qui permettrait aux choses d'avancer. Ça n'a pas eu lieu, donc j'ai l'impression que ce qu'il faut faire, c'est nous, en tant que citoyennes et citoyens, de multiplier tous les actes de résistance possibles, y aller aussi bien par la désobéissance civile que les grandes manifestations. Bref, utiliser tous les moyens, parce que c'est clair que c'est pas au niveau des États infiltrés par les grands lobbies que les changements que l'on souhaite vont avoir lieu. C'est quand même assez urgent, donc c'est très important qu'il y ait une espèce de coordination internationale plus forte, plus intense que ce qu'on a actuellement pour pouvoir justement multiplier les actions et montrer montrer à ceux qui nous gouvernent dans quel sens aller, parce qu'il y a des gens qui leur donnent pas des bonnes indications du bon chemin à suivre. Et ici, je veux saluer Dominique Bernier, qui est notre chroniqueuse vraiment habituée, qui est là depuis longue date à Attaque Québec. Elle est aussi sous le conseil d'administration d'Attaque Québec. Combien de fois, Dominique, nous a parlé de l'importance des ententes de libre-échange? Alors que moi, je dis, moi, je suis un écologiste, environnement, c'est important, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'est pas changer le monde. Ben, je te donne raison, Dominique. Salut. Vraiment, j'ai compris ici, il faut vraiment participer à ces négociations, être sur place comme journaliste, j'imagine, interpeller les chefs d'État, dont le premier ministre du Québec et du Canada, que j'ai eu la chance de rencontrer ici en suivant la mission des journalistes à Matignon, à l'Élysée, avec des journalistes qui sont obligés de couvrir leur premier ministre, mais qui ne posent pas les bonnes questions. Alors, quand je leur parlais du marché du carbone et de Red Plus, j'avais l'air d'un dinosaure qui parlait à des astronautes, là. Et quand même, c'est très décevant de savoir que les gens ne savent pas que, dans le fond, c'est même pas important ce qui s'est discuté ici. Ce qui est important, c'est les ententes de libre-échange qui se font entre les pays, comme on mentionnait en Autriche, comme on mentionnait un peu plus tôt. C'est ces ententes qui font en sorte que 1000 tonnes de porc peuvent partir du Danemark, aller au Brésil et croiser le même bateau qui part du Brésil avec 1000 tonnes de porc et ils s'envoient la main. Qu'est-ce que c'est? Alors, les ententes de libre-échange permettent d'augmenter l'extractivisme, le productivisme. Donc ça, j'ai appris ça ici encore plus avec des exemples concrets. Mais donc, il faut écouter le message qu'on nous lance. Un terme que vous devrez apprendre, nous on connaît le Bloc québécois chez nous, mais là, le Bloc ADIA. Un Bloc ADIA, il y a des activités qui vont se faire les 7 et 13 mai. Et par hasard, est-ce que Attaque France ont des projets pour faire de la blocadia, pour lâcher un message aux dirigeants de la planète et aux multinationales qu'il y a des solutions? Peut-être sont-elles dans la rue, peut-être sont-elles dans les officines d'Attaque France et qu'il faut les faire connaître. Avez-vous des plans pour les 7 et 13 mai prochains?
Alors, bien entendu, Attaque France est solidaire de ce mouvement international de blocadia. Et pour être très précis, d'ailleurs, Noémie Klein en a parlé cet après-midi à notre réunion, à notre grand rassemblement, c'est que nous allons bloquer tous les projets importants en Europe qui sont climaticides, c'est-à-dire dangereux pour le climat, c'est-à-dire qui consistent à construire des nouvelles installations pour développer l'exploitation des énergies fossiles, et en particulier le charbon. Donc toutes les opérations destinées à utiliser davantage de charbon, par exemple les centrales électriques au charbon ou l'exploitation des mines de charbon, comme il y en a dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne par exemple, eh bien nous allons organiser avec tous les attaques de la région des actions de blocage pour empêcher ces opérations et pour sensibiliser l'opinion publique au fait que les gouvernements sont totalement incohérents, parce que d'un côté ils disent qu'ils veulent réduire les émissions de gaz à effet de serre et de CO2, de carbone, et en réalité, ils continuent de subventionner et d'encourager les opérations de ce type-là. Et nous pensons d'ailleurs qu'une des sources de financement de la transition écologique, c'est précisément d'arrêter les subventions aux énergies fossiles et de déplacer, de réorienter ces subventions vers les énergies renouvelables. Les statistiques dont on dispose aujourd'hui au niveau mondial, c'est qu'il y a à peu près 650 milliards de dollars chaque année versés par les États pour exploiter les énergies fossiles. Eh bien, cet argent devrait aller vers les énergies renouvelables. Et donc, il faut stopper, et c'est ça le sens de Blocadia, toutes les opérations qui sont dangereuses pour le climat.
Bah, nous, en Autriche, on n'a pas encore s'accorder sur qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais on va discuter ça. Par contre, Autriche, c'est un pays très petit et on n'a pas vraiment des endroits d'extraction de charbon comme par exemple en Allemagne. Donc nous, on va plutôt se concentrer sur probablement des projets qui sont liés à cette économie du fossile et qui va faire plus grand et renforcer cette économie. Donc c'est des projets d'expansion des autoroutes, des tunnels, des choses qui contribuent à que on construit des infrastructures qui n'ont pas de futur, parce que le futur est un autre. Donc nous, en Autriche, probablement, on va plutôt se concentrer sur ça, vu qu'on n'a pas des lieux d'extraction des ressources fossiles. On va réfléchir quelle peut être la lutte en nous, chez nous. Mais c'est pour nous important de aussi trouver les enjeux en Autriche, parce que l'autre chose, ça pourrait être aussi d'être en solidarité avec l'Allemagne, d'y aller en Allemagne où on va avoir une grande mobilisation. Et voilà, une mine du charbon. Et ça, on a déjà fait en été dernier, enfin cet été. Mais pour nous, c'est important de mener la lutte chez nous, sur notre territoire, parce que ça fait aussi une mode de conscientiser les personnes d'une manière différente. Parce que si on va en Allemagne, c'est en Allemagne qu'il y a la prise de conscience. Mais il faut travailler chez nous, et donc on va travailler là-dessus.
Au Québec, nous, on a un avantage assez extraordinaire, c'est de pouvoir, dans le fond, subvenir tous nos besoins énergétiques peuvent être comblés par hydroélectricité et aussi par les éoliennes. Ça veut dire qu'on pourrait être peut-être le premier pays pour arriver quand même assez facilement à une totale indépendance énergétique par rapport aux énergies fossiles. Pour ça, le grand projet, c'est vraiment d'électrifier les transports. Il y en a plusieurs qui parlent de ça, puis des groupes écologiques, même des partis politiques qui en parlent. Alors, il s'agit maintenant de passer des souhaits à la réalisation de ce projet-là. C'est un projet qui doit être fait très rapidement, qui peut être fait aussi très rapidement. Et c'est là que le Québec pourra avoir une espèce de position de leader international. C'est-à-dire qu'on a cette facilité. Alors, pourquoi pas en profiter? Malheureusement, même si c'est un projet qui est dans l'air, même s'il est souvent mentionné, la réalisation de ce projet-là ne semble pas encore en voie. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire pression pour le gouvernement pour arriver à cette électrification des transports qui pourrait, à ce moment-là, nous libérer, là, mais totalement des énergies fossiles. Et ce serait un cas très, très intéressant à suivre pour les autres pays.
Et d'ailleurs, un des moments forts de la présence du premier ministre Philippe Couillard, premier ministre du Québec, c'est quand tout bonnement, et j'étais sur place avec mon enregistreuse pour vous le faire écouter, mais c'est des banalités pour certains, c'est qu'il a dit, une réponse à une question d'un journaliste, c'est que le gaz naturel, c'est qu'une énergie de transition. Mais dit par un premier ministre, ça a un impact où, le lendemain, nous, on était à la soirée canadienne et comme invité spécial, il y avait la présidente de Gaz Métro et il y avait aussi le président de Hydro-Québec à côté, alors que c'était supposé être une soirée de la société civile. Et ces membres de la société civile que j'ai encore rencontrés aujourd'hui dans une des manifestations n'ont pas vraiment critiqué le gouvernement, n'ont pas joué leur rôle de contre-pouvoir. Je pense qu'une chance qu'une station de radio comme CKRL et attaque Québec et les amis de la terre de Québec pour dire au gouvernement qu'on est contre le marché du carbone. C'est un enjeu important. Ici, bien sûr, pour l'Europe, c'est le charbon. Mais chez nous, le marché du carbone, une façon de pouvoir acheter des permis de polluer, d'échanger comme si on était à la bourse, de faire ce jeu de cartes, de bluff, de rhum, non carbone votant. Et en plus, la nouvelle que j'ai, moi, en venant ici, en suivant cette délégation où on eut à rencontrer 44 chefs d'État de gouvernement, dont 35 étaient présents à l'hôtel de ville de Paris, où on a signé un Memorandum of Understanding, autrement dit un genre de première étape vers la promotion et l'intégration d'un marché du carbone des pays du Sud. Donc, un État du Mexique, l'État du Jalisco, pour ceux qui connaissent la ville de Guadalajara, eh bien, eux sont les premiers qui veulent entrer dans le marché du carbone de la Western Climate Initiative, qui supposément, selon l'OCDE, est le meilleur marché du carbone parmi les pires dans le monde, celui européen est pire, parce qu'ils permettent déjà en Europe de vendre et d'acheter avec Redcar, d'acheter des terres, de faire l'accaparement des terres, et donc de changer la biodiversité de certaines terres, de planter des eucalyptus partout où on produisait localement sa propre nourriture dans les pays du Sud. Et l'exemple du Mozambique, du Congo, l'Indonésie sont à donner. On a rencontré ces gens-là qui vivent les conséquences de marché du carbone, qui se retrouvent avec l'accaparement des terres chez nous. Donc, eux, si le Mexique entre, ça sera le début de la fin.
du ce marché du carbone où on pourra penser faire des bonnes choses pour l'environnement alors que on a en fait essentiellement c'est un permis pour polluer dans le Nord et puis se faire pardonner en achetant des terres. Mais mettez-vous à la place de ces gens-là qui perdent leurs terres, qui on voit même des caricatures où on bloque carrément comme si c'était l'armée qui entourait la terre des gens qui cultivaient eux-mêmes, qui se nourrissaient de cette terre à l'époque. Et maintenant, avec le marché du carbone, mais on peut se faire pardonner en achetant ces terres-là. C'est vraiment le désastre qui peut arriver. Ça, le grand promoteur à la COP21 de ce genre de marché, c'était le Québec avec la Californie. On a rencontré le gouverneur de la Californie, le premier ministre du Québec, et on pense que le Québec n'a pas une si bonne réputation. Et juste en terminant là-dessus, le Canada, et ça, il faut vérifier les sources, mais ça vaut la peine que je vous le dise, que je vérifie par la suite, c'est que la délégation canadienne, quand on dit Canada is back à ces conférences de convention cadre des Nations Unies, bien, il n'était pas de retour à peu près. La délégation canadienne, et on inclut les membres de la société civile du Québec qui mangeaient dans la main et qui dormaient aux frais du gouvernement pendant qu'ils étaient ici. Et je les salue d'ailleurs, ils ont pas même parti où on n'est pas invité ce soir. Nous, on était invités au party d'Attaque France où on a mangé du bon fromage que vous nous exportez parce que nous, on peut vous envoyer le pétrole le plus sale du monde entier dans ces ententes de libre-échange. Oui, c'est ça. Quand on signe une entente de libre-échange, c'est pour favoriser l'exportation des bons fromages. Venez donc en France goûter les fromages en bateau ou à la rame, peut-être, pour pas dépenser trop. Parce qu'effectivement, une des grandes exclusions de cette entente, c'est le domaine du transport par aviation et maritime. Donc, quand on veut diminuer le commerce, ben, on diminue le transport par avion et maritime. Mais non, cette entente exclut donc les lobbies des compagnies d'aviation que l'on va prendre justement pour retourner chez nous. Les lobbies du maritime ont réussi leur travail d'avoir pris la place de la société civile dans cette entente qui est inacceptable, comme on le rappelait en début d'émission, par Noémie Klein. Donc, juste pour vous donner un peu d'ambiance de comment ça se passait au village global des alternatives alternatives à Montreuil, j'aimerais que Michel, tu fasses comme prévu, nous mettre une minute, une question de reporter.net. Grâce à la collaboration qu'on a négociée effectivement encore mieux sur place avec Hervé Kempf, pour ceux qui ne connaissent pas Hervé Kempf, c'est l'ancien chroniqueur du journal Le Monde, qui est un peu de Louis-Gilles Franqueur du journal Le Devoir, qui est à la retraite. Tous les deux, on ne peut plus les lire dans Le Monde ni dans Le Devoir, mais Hervé Kempf a parti son propre média, un média qu'on peut lire sur Internet, reporter.net, je vous le suggère. Et ici à Attaque France, j'ai découvert Basta. Alors, j'ai reçu ma newsletter Basta la première fois aujourd'hui. Donc, je vous invite pour avoir plus d'informations qu'à la radio qu'on peut vous donner. Abonnez-vous à Basta, abonnez-vous à reporter.net. Donc, on écoute des gens, des amis de la Terre qui sont cités par reporter.net. C'est des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, qui sont super sympathiques. Et ça vous donne l'ambiance d'une manifestation qui a été faite à la COP21 sur les Champs-Élysées qu'on appelle là-bas, à travers les accès privilégiés des chefs d'État et de leurs représentants, leurs diplomates, bien, il y avait aussi des membres de la société civile qui faisaient quelques actions. Et une des actions des animateurs cette semaine est celle dont on va vous parler dans quelques secondes.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour à tous, nous sommes à Montreuil, dans l'est de Paris, où la société civile du monde entier s'est donné rendez-vous ce week-end, depuis hier, à une vingtaine de kilomètres du Bourget, où a lieu la COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat. Se déroule ici le Climat Forum et le Village Mondial des Alternatives. Nous sommes au théâtre Maria Cazares avec nos invités, tous impliqués dans l'organisation de ces événements. Je vous les présente tout de suite. Juliette Rousseau, bonjour. Vous êtes porte-parole de la coalition Climat, qui regroupe plus de 130 organisations de la société civile. Alors, c'est vous qui organisez ce Climat Forum ?
Ce sommet citoyen pour le climat, oui, tout à fait, ainsi qu'un certain nombre d'autres mobilisations et espaces de convergence.
Il y en a beaucoup ce week-end ?
Alors, ce week-end, c'est le sommet citoyen pour le climat avec plusieurs centaines d'activités. La semaine prochaine, ça sera la zone d'action pour le climat au 104. Et puis deux journées de mobilisation le 29 novembre, donc c'est passé. Et la prochaine, le 12 décembre, mais je crois qu'on en reparlera.
On y reviendra sur ce 12 décembre. Guillaume Durin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des porte-parole du mouvement Alternativa. Alors vous organisez ici à Montreuil ce week-end le Village Mondial des Alternatives.
Tout à fait, le Village Mondial des Alternatives qui se situe dans le sommet citoyen pour le climat.
Voilà, donc en arrivant ici, autour de ce théâtre, il y a plein de tentes avec des gens qui commencent à arriver, des centres habitat, santé, éducation, enfin on peut en apprendre sur tous les sujets en lien avec les changements climatiques ici à Montreuil ce week-end. Et puis plusieurs personnes qui sont venues, je le disais, du monde entier, hein, ici à Montreuil et à Paris, et plus généralement pour cette COP21. N'Gol Ali, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante pour la justice climatique au Sénégal. Alors, vous faites partie du réseau des jeunes activistas de l'ONG Peuple Solidaire. Vous pouvez nous présenter en quelques mots votre réseau ?
Tout à fait. Donc, c'est le réseau international des jeunes activistas qui est pour la mobilisation sociale, la campagne pour la justice climatique et qui est présent dans plusieurs pays comme le Sénégal, le Nigeria, la Gambie et le Bangladesh, le Brésil. Et on travaille sous la coupole de Actionnet, de l'ONG Actionnet et Peuple Solidaire.
Et c'est votre premier séjour à Paris ?
Oui.
Fait froid ?
Trop froid.
Trop froid. Chafik Benrouine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et président de l'Observatoire tunisien de l'économie. Alors, quel est le rôle de cet observatoire ?
Donc, le rôle principal de cet observatoire qui a été créé il y a 2 ans, c'est principalement de démocratiser, de redémocratiser, en fait, les enjeux liés à l'économie, les enjeux sociaux et environnementaux à la suite, justement, de la transition et des révolutions en Tunisie.
Et à vos côtés, Francine Gang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général d'Inades Formation. Alors vous venez de Côte d'Ivoire, mais votre association est présente dans une dizaine de pays africains. Vous travaillez surtout dans ces pays-là sur des projets de développement en zone rurale.
Exactement. Bien sûr, au départ, depuis 1975, on travaille sur des projets de développement en milieu rural. Mais aujourd'hui, nous focalisons notre travail sur la stimulation et l'accompagnement des alternatives de développement pour le bien commun. Et aussi, nous travaillons un peu sur des questions d'influence des politiques de développement dans les différents pays et dans le monde.
On va en reparler parce que c'est vrai que les conséquences...
Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Vous écoutez CKRL 89.1 Québec.
La lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, elle est remplie de corbeaux. Et l'archipel est découpé par mes ciseaux. Je vois la peine, je vois la peine, je vois la peine du secret dans le tombeau. Je vois la peine, je vois la peine, je vois la peine dans les ports de ta peau.
À découvrir sur La Fabrique culturelle.
Déric Frenette, humoriste et porte-parole de Cégep en spectacle.
Là, aujourd'hui, je fais 3-4 shows par semaine. Dans le temps du Cégep, j'en faisais un aux 6 mois. Et le premier que j'ai fait, c'était à Cégep en spectacle.
Fated, premier jeu de réalité virtuelle pour Frima Studio.
On joue un peu un rôle de pionnier. On essaie de définir un nouveau langage, une nouvelle grammaire.
Tout le talent d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au Café Castello, 2909 Première Avenue, cafépremièreavenue.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Il y a eu le Montignac, l'Oriental, l'Occidental, le Paléo, mais je pensais jamais qu'un jour, ça serait le régime forcé.
Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
CKRL tient à souligner le 100e anniversaire de naissance d'Édith Piaf. L'émission Univers francophone du 18 décembre, animée par Denis Lelièvre, sera entièrement consacrée à la môme. Sa vie, sa carrière, sa musique. Un grand rendez-vous ce vendredi dès 10h.
Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par le haut. Elle a envie de changer sa physique.
Tu dirais quoi si je baissais le chauffage?
Que tu veux te coller contre le plus bel homme du monde?
Par grand froid, abaisser la température dans la maison est une excellente idée. Un geste collectif qui contribue à répartir la consommation d'électricité lorsque le réseau est grandement sollicité. Un message d'Hydro-Québec.
Val, la brassée de blanc, ça peut-tu attendre?
Ben oui, mon amour, va écouter ton hockey, là. Tu le mérites.
Par grand froid, reporter l'utilisation de la sécheuse est une excellente idée. Un geste collectif qui contribue à répartir la consommation d'électricité lorsque le réseau est grandement sollicité. Un message d'Hydro-Québec.
Direct des entrailles de CKRL, voici les Geeks contre